Alors, on est ensemble jusqu'à 9h. Vous êtes avec Michel. Et ce matin, nous sommes avec l'association Pour une constituante. L'histoire des gauches, l'histoire des divisions, des courants, bah, c'est pas nouveau que finalement la gauche soit plurielle, soit variée. Mais finalement, qu'est-ce que la gauche? Jusqu'où va-t-elle? Est-ce qu'elle va jusqu'à Valls, Macron? C'est les questions qu'on peut se poser et on va se les poser à la lumière d'un éclairage historique justement pour bien comprendre tout ça. C'est notre énième émission en partenariat avec l'association Pour une constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une pu 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 qu'une ré qu'une pu qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour Antonin.
Bonjour Michel, ça fait plaisir.
Eh ben oui, plaisir de te retrouver fidèle derrière ce micro.
Ouais.
Donc pour notre émission avec l'association Pour une constituante. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté sur les gauches?
Bah alors là, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est vraiment cette question de qu'est-ce que c'est être de gauche aujourd'hui? Qu'est-ce que le mot veut dire? N'est-il pas galvaudé? Et on voit vraiment des gens avec des étiquettes, avec des attitudes, des pensées tellement différentes sous la même bannière qu'il y avait un moment, il fallait quand même se reposer la question fondamentale de quel est le premier principe de gauche, ou quels sont les premiers principes, quelles sont les premières attitudes, ou les premières inquiétudes qu'on devrait avoir quand on est quelqu'un de gauche ou pas. Quand on voit, j'ai envie d'évoquer pas mal de choses, mais quand on voit la gauche américaine, même la gauche française, quand on voit les liens entre certains groupes financiers, industriels et des politiques de gauche, on se dit, bon, des fois, moi, j'ai envie de me dire, je préfère la droite parce qu'au moins, elle est franche. Quoi. Elle est franche, elle est honnête. On sait où ça va. Il y a pas de faux semblant. Alors que la gauche, souvent, va peut-être espérer s'appuyer sur une histoire française dont moi personnellement, je suis très fier, une histoire sociale, pour nous faire croire qu'ils vont aller dans un certain intérêt, dans la direction d'intérêt de certaines personnes, pour en fait ne pas le faire et juste maquiller tout ça de bonnes intentions. Et donc,
Alors, c'est vrai qu'on compte plus les trahisons, les déceptions,
oui,
depuis quelques décennies. Mais finalement, est-ce que c'est récent, ces trahisons,
ça a toujours été là, de fait.
C'est inhérent à la gauche de gouvernement, peut-être?
Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases. Alors, je pense qu'on va le voir. J'ai envie de remonter un petit peu, surtout au 19e siècle, mais il y a eu aussi même une phase importante dans l'acceptation du monde libéral absolu depuis les années 70-72, quoi. Sous Reagan Thatcher, ça a été un grand, grand changement dans le monde entier. La gauche a commencé à se soumettre un petit peu au diktat libéral et à essayer de se garder une identité en s'interrogeant plus sur les questions minoritaires, le droit des femmes, etc. Ce sont des questions intéressantes, mais une fois qu'on les a toutes réglées, et c'est là que c'est intéressant à notre époque aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir réglé ces droits-là, tout le monde commence à avoir un droit de vote, etc. Ben, la gauche est dans un désarroi complètement, dans un désarroi assez fort en termes d'idéologie, parce qu'il reste plus.
Il y aurait encore
des
choses à faire sur le droit de vote
droit social,
des étrangers, par exemple.
Oui, ça reste des questions minoritaires. Il n'y a plus de ségrégation noir-blanc dans les bus. Les femmes ont droit de vote, ont droit d'avoir un chèque, tous ces trucs vraiment très fondamentaux. Après, on peut discuter sur le droit de vote des étrangers, mais même là, les gens d'extrême gauche vont pouvoir vous dire, mais il y aura des discussions, mais il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux des gens. Il y a par contre des questions sociales qu'il faut encore résoudre, beaucoup, mais que des fois la gauche commence à plus vouloir vraiment assumer, parce qu'il faut mettre de l'argent, il faut réfléchir à comment on distribue, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu une fuite, pas mal, en général il y a eu une fuite des questions sociales. On essaie de régler toutes les questions sociétales entre-temps, pour éviter la question sociale, et maintenant on arrive dans un monde où les questions sociétales sont pas mal arrangées. Toujours, il faut toujours combattre dessus, il faut jamais les prendre comme acquis. Il faut toujours essayer de lutter, bien sûr, garder les acquis, essayer de se protéger, essayer de garder le droit des femmes, etc. Mais bon, il y a un moment où il faut quand même un moment se refocaliser sur la question sociale, et ça va être un des défis de la gauche, je pense, dans les années à venir.
Alors, nous sommes avec ton invité, Jean, donc, qui est consultant et qui est passionné d'histoire et de politique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à un moment, je vais parler du 19e siècle, de la révolution de 48, et je pense que Jean nous fera un très beau portrait d'une figure dont tout le monde connaît le nom. Si vous êtes parisien, je pense que vous connaissez, mais dont peu connaissent la vie, malheureusement.
Voilà, donc je vais parler de Louis-Auguste Blanqui, lorsque tu me donneras la parole.
Ça.
Mais qui est-il donc?
Ça va être intéressant.
On va apprendre des choses sur les figures de la gauche. Oui. Ok, alors par quoi on commence, Antonin?
Bon, alors, une petite intro, moi. Qu'est-ce que être de gauche? Je voudrais rappeler des magnifiques événements qui sont passés en 2012. On a eu François Hollande qui nous a fait, je vous rappelle, le discours sur le Bourget. Le discours au Bourget, je veux dire, sur la finance c'est l'ennemi, etc. Donc un bon discours de gauche sociale sur la redistribution des richesses, la finance c'est l'ennemi, on va taxer tout ça, etc. Bon, c'est sympa parce qu'un an après, Hollande nous fait un cadeau de 40 milliards aux entreprises sous forme d'allègement de charges, aucune contrepartie de la part du MEDEF. On voit Pierre Gattaz, mais c'est magnifique, on voit Pierre Gattaz à la télévision, président du MEDEF avec un petit pins, 1 million d'emplois. Une semaine après, Pierre Gattaz déclare au Figaro « Je ne signerai jamais que nos entreprises vont créer 1 million d'emplois, ce serait suicidaire. » Voilà le monde dans lequel on est. 4 ans plus tard, on a le trio Hollande, Valls, Macron qui va mettre à la poubelle l'actuel code du travail. On a fait une émission dessus, le code du travail qui met plusieurs décennies de lutte syndicale, de lutte sociale, et qu'on remplace par une libre négociation au sein de chaque entreprise. Donc en gros, bon, on met sur un même pied les commanditaires du travail et les exécutants. Les exécutants ayant comme force uniquement leur puissance sectorielle, leur puissance de nombre, détruire cette puissance et les rendre... les atomiser dans chacune des petites entreprises amène à la fin de leur pouvoir de négociation, clairement. Quoi. Donc bon, c'est vrai que c'était une belle occasion pour le PS de donner au MEDEF ce qu'il voulait. Quand le MEDEF déclarait en août 2015 que le code du travail était le fléau numéro 1 des patrons français, on voit ce que ça a donné.
Donc, bel exemple de renoncement de la gauche.
Oui, je voulais commencer par ça, pour qu'on rappelle un petit peu.
Ça, c'est effectivement, ça fait pas de mal de le rappeler. Donc, le CICE, hein, tu fais référence au CICE,
oui.
Qui est donc le exonération de cotisations pour les...
Ok, encore une fois, vous allez me dire, oui, on pourra toujours me contre-argumenter, oui, c'était un bon exemple, ça pouvait marcher bien pour certaines petites structures, etc. Très bien, mais bon, c'est pas ça qui s'est passé en vrai, donc... Encore une fois, même si ça a été dévié, etc., il fallait y penser mieux avant, les mecs. Vous êtes ministre, il faut faire un effort. Il faut réfléchir plutôt, il faut savoir quels vont être les comportements stratégiques des grands groupes. Alors, comme petit point historique, je voulais commencer par un petit point rapide sur la Révolution française. Bon, la Révolution française, on connaît souvent, je sais qu'il y a souvent des experts qui viennent en parler ici, donc je ne vais pas m'étaler beaucoup. Mais en gros, bon, on nous présente souvent la Révolution comme la société française dans les années 1780 comme une société en trois classes. Donc il y a 400 000 membres environ de la noblesse, 120 000 membres du clergé, et puis le reste, le tiers d'État, 98% de la population. Si on réfléchit en classe, ça peut être plus intéressant aussi. Donc on peut aussi voir ça comme quelques centaines de milliers de privilégiés qui vivent de leur terre et de leurs droits scénarios. Donc ça sera les aristocrates et les clergés. Et ensuite faire une division du 98% de la population qui reste. Dans ces 98% de tiers d'État, il y avait aussi quelques centaines de milliers de possédants. Qui s'appelaient eux-mêmes les bourgeois, des industriels, banquiers, commerçants, exploitants agricoles, ou des gens qui exercent des professions libérales. Et enfin, on avait le peuple. En gros, environ 24,5 millions d'ouvriers, petits artisans, journaliers agricoles, domestiques, ou gens sans emploi qui vivent d'expédients. Donc dans ce quart état, il y avait une bonne partie du clergé également, comme les curés de campagne, qui vivaient de ce qu'on appelait la portion congrue. Et donc, si on voit ça comme ça, on peut déjà mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on avait cette division très forte post-révolutionnaire, cette division très forte à l'époque, entre deux tendances, les révolutionnaires issus de la bourgeoisie, qu'on va appeler les Girondins, et qui ont deux ennemis, d'un côté les privilégiés, et qui veulent arracher le pouvoir politique, et également le peuple, qu'il fallait quand même bien continuer à exploiter pour son propre compte. Donc ce sont des Girondins avec des figures historiques comme Barnave, Brissot, Vergniaud, etc. Et de l'autre côté, les révolutionnaires issus du peuple, qui veulent mettre fin à toute forme d'exploitation, permettre aux petites gens de mener une vie décente. Bon, eux, leur porte-parole sont les Montagnards, et on les connaît comme des gens comme Robespierre ou Marat.
Alors, qu'est-ce qui a fait que, finalement, cette bourgeoisie, elle a voulu renverser la table, faire basculer les choses, alors que finalement, elle tirait son épingle du jeu.
Oh non, là, ça va être rapide. Je pense qu'il y avait un manque d'accès à plein de choses. Il y avait une question de, on crée la richesse, on fait marcher le pays, on n'a pas accès au pouvoir, c'est pas normal. C'est le truc basique de la Révolution française. Je pense que c'est vraiment la bourgeoisie qui exclut des décisions de pouvoir. Et donc, il faut quand même se débarrasser de ces gens qui ne font rien à part naître. Voilà. Donc ça, c'était très bien. Au final, toute l'argumentation qu'il va y avoir et qui va être intéressante dans la suite, c'est comment est-ce que ça, le peuple ou la bourgeoisie, tout le monde a profité de ça. Et ensuite, c'est comment est-ce que la bourgeoisie a peut-être pu arnaquer le peuple en se basant sur ce genre d'alliance qu'il fallait faire à un certain moment. Et je vais m'inspirer beaucoup pour les quelques points que j'ai faits d'un livre qui s'appelle « La gauche et le peuple », qui est un entretien épistolaire entre Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa. Un bouquin que je conseille à tout le monde. C'est un entretien épistolaire qui s'est déroulé sur 2 ans environ, où en gros Jacques Julliard va présenter une certaine position républicaine où il va vanter les mérites de la République française, et moi je suis plutôt d'accord avec lui, et en gros en essayant de dire que les ouvriers ont aussi trouvé leur compte, sachant même dans les alliances, etc., avec la gauche plus de pouvoir, tandis que Michel, lui, va essayer de tempérer tout ça et dire que non, justement, il y a eu des trahisons, etc. Et il va dire que oui, ils vont s'accorder sur pas mal de choses, mais il y aura des divergences qui ont été intéressantes et qui m'ont pas mal inspiré pour aujourd'hui.
Alors Michéa, on peut peut-être rappeler Jean-Claude Michéa.
Alors Jean-Claude Michéa, oui, c'est une figure de la pensée de gauche ou d'extrême gauche aujourd'hui. Alors il a toute une théorie assez intéressante sur le retour, en gros, pour avoir un vrai retour sur la gauche, il veut un retour au populisme. C'est-à-dire que il joue sur le mot parce qu'il en a marre d'ailleurs que ce mot soit négatif. Selon lui, la pierre angulaire d'une vraie politique de gauche ou d'une possibilité d'un monde social, c'est la confiance dans la décence et le bon sens des classes populaires. Avoir un petit peu plus confiance et arrêter de les suspecter en permanence d'être plus bêtes, plus malléables, etc., etc. Et c'est aussi un des arguments qu'il va donner quand on donne l'argument des échecs, l'argument très pertinent, je pense, des échecs socialistes en Russie, etc. Il va aussi donner l'argument de peut-être que la population n'était pas à un stade de maturité qui était nécessaire, que la révolution arrivait trop tôt, etc. Donc c'est quelqu'un d'assez intéressant qui écrit des livres. Des livres qui pètent, hein, pas mal. Hein. Il fait sauter pas mal de choses pas mal de carcans. Après, les gens lui en veulent pas mal. Certains, il peut se faire accuser aussi d'être populiste, avec une droitisation, je ne sais quoi, parce qu'il va en effet se plaindre de tout ce qui est GPA et compagnie, qui sont des combats très bien, mais très bourgeois parisiens. C'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il refuse de vivre dans Paris, etc. Il veut continuer à vivre en province, localement, auprès des gens. Il a une vision très très locale de ce qu'est la gauche et les combats de gauche. Donc moi je conseille ses livres, après voilà, toujours pareil, à discuter, à argumenter, mais il a une vraie position assez intéressante.
Ok, alors donc ça c'est pour... Donc qu'est-ce que cet entretien entre Julien et Michéa, du coup, ça t'a inspiré
Ouais, il est assez intéressant parce que, en gros, d'un côté il y a la fierté de la gauche qui est assez fière de ses racines républicaines, etc., avec les droits qu'on a pu avoir, tous les droits genre de propriété, les droits à l'expression, la presse, etc., des choses dont il faut qu'on soit tous fiers, bien sûr, parce que la France a été très riche dans ses combats, une histoire très riche en termes de combats sociaux, de droits fondamentaux comme ça. Et donc tout le point de Julliard, c'est le peuple a aussi son intérêt là-bas, alors que le point de Michel va être plutôt que du côté de la gauche de combat ouvrière, on est concerné par par les conditions de répartition de richesses entre les classes, et qu'il peut y avoir une arnaque totale là-dedans, dans cette idée qu'il y a une convergence qui serait mue par les promesses d'un progrès, d'un progrès social et politique qui marcherait pour tout le monde. En gros, Julliard considère qu'il y a un progrès technique qui est promu par des scientifiques, qui est axiologiquement neutre. C'est-à-dire que le progrès technique n'est pas de gauche ou de droite. Il existe. Il existe et il va profiter à la société. Il considère que, donc, de manière inhérente, ce progrès technique va profiter à tout le monde, et donc les ouvriers devraient être heureux de participer au mouvement avec les bourgeois, même s'il y a des luttes. Jean-Claude Michel, lui, va être relativement d'accord avec ça. Il va considérer, lui, qu'en fait, un exemple parfait de la fin de la gauche de combat, comme il l'appelle, la gauche ouvrière de combat, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, faut pas le méprendre. Encore une fois, il ne dit pas qu'il fallait laisser tomber Dreyfus, mais c'est cette alliance qu'on a vue entre les deux forces, le ralliement des groupes politiques qui se qualifient de gauche tout ensemble sous l'étendard d'un progrès libéral. En gros, c'est lui qui voit... Enfin, il voit dans ce premier événement, en gros... une dynamique prometteuse vers l'unité qui a en fait été le départ du jeu de dupes. Julliard, lui, va considérer que l'alliance entre les deux et cette alliance dont il pense pouvoir faire quelque chose au terme historique commençait plutôt au niveau du 19e siècle. Alors donc en fait, oui, il y a eu un jeu de dupes. Bon, tout le peuple, au final, finira par payer après l'affaire Dreyfus à travers la Première Guerre. C'est ça qui va se passer. Donc ce que pense Michel, c'est qu'il y a eu ce jeu de dupes en 1905-1906 sur l'affaire Dreyfus, qui va juste amener la gauche ouvrière qui a cessé d'être révolutionnaire à en gros accepter des conditions et à se retrouver dans la guerre à massacrer un peuple qui n'avait pas choisi.
Alors attends, c'est quoi ce jeu de dupes? Qu'est-ce que ça signifie en
fait? C'est on accepte de se mettre sous un même étendard avec la gauche bourgeoise, entre guillemets. Sous un même étendard, on accepte avec dans le cadre de l'affaire Dreyfus, on accepte de se mettre sous un même étendard et de faire une coalition politique. Et ensuite de défendre des intérêts communs entre les deux gauches. Et en fait, ce que dit Michel, c'est que les premières choses que vont faire les représentants de la gauche bourgeoise dès qu'ils accèdent au pouvoir, etc., c'est en gros ne plus respecter leurs promesses sur tout ce qui était réforme sociale. Et donc, ce jeu de dupes est apparu plusieurs fois. Ça, ça arrivait plusieurs fois dans l'histoire. Il y a un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'était le 1848. 1848, c'est assez fort. C'est un moment où toute l'année 48 a été marquée par la crise économique, sociale. Alors, on dit la révolution de 48 dans l'histoire de France. Et la révolution de 48, elle va laisser pendant des mois et des mois une certaine instabilité. Donc, il y a une grosse incertitude. Beaucoup de détenteurs de capitaux vont retirer leurs fonds des banques. Les banques vont manquer liquidité. Et il y aura beaucoup de chômage en France. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de chômage et il y a la création de ce qui s'appelle les ateliers nationaux au mois d'avril-mai. Les ateliers nationaux, ce sont des ateliers de travail qui ont été créés spécifiquement pour redonner du travail à tous ces chômeurs de la classe ouvrière et pour leur donner des activités et faire des choses. Donc, c'est quelque chose qui coûte très cher à l'État. Et on a environ 115 000 personnes qui se retrouvent inscrites dans ces ateliers nationaux. Donc il y aura toute une propagande de l'époque donc des faux rapports de la commission de travail de l'Assemblée constituante de l'époque qui vont essayer d'augmenter les coûts engendrés par ces ateliers nationaux. On va augmenter les coûts dans la presse, etc. On va faire une propagande pour les arrêter. Alors que quand on étudie aujourd'hui et qu'on voit aujourd'hui le prix que ça revenait, ça coûtait à peu près 1% du budget de l'époque. Et donc tous ces ateliers nationaux qui étaient un peu une victoire pour toute la classe ouvrière vont être remis en cause. C'est la remise en cause de ces ateliers nationaux qui sont vus comme une infamie aux yeux des classes dominantes. C'est leur fermeture, en gros, en juin, qui va lancer un des plus gros massacres de la gauche du pouvoir sur la gauche révolutionnaire.
Comment ça se positionne ces ateliers par rapport à la révolution, au mouvement de 48 c'est leur fermeture qui a déclenché là pour bien resituer les.
Oui, c'est ça. Donc, en avril, en gros, alors pour faire un peu une chronologie, en avril, il y a eu l'élection de l'Assemblée constituante, donc de 48,
ouais.
Un unanimisme républicain chez tous les candidats. Et donc des candidats plutôt modérés qui vont se révéler au fil du temps un peu des républicains du lendemain. Donc les positions des uns et des autres qui étaient assez sociales à la base vont se décanter pas mal dès que le temps va un petit peu passer. Le 21 juin, il y a une décision donc nationale de supprimer les ateliers nationaux qui étaient vraiment un acquis social pour les ouvriers de l'époque. Donc on supprime les ateliers nationaux en raison de leur coût. Alors en gros parce que le travail, par exemple le repavage des rues, etc., n'existe plus. Quand on a fait pas mal des tâches, en fait, il est vrai qu'il restait moins de travail à fournir. Fermer ça sous l'argument de ça coûte trop cher, alors qu'à l'époque, de fait, ça coûtait moins de 1% du budget global, a laissé place à une agitation politique quotidienne. On arrive au 22 juin, en gros, et on arrive. En 22 juin, on a de l'agitation dans différents points de la capitale française, dans Paris. Et le 22 juin, c'est le début des journées de juin. Les journées de juin, ce sont ces journées, en gros, où 25 000 militaires de l'armée française vont venir sur Paris, calmer tout ça. 17 000 gardes nationaux, 15 000 gardes mobiles et 2500 gardes républicains. C'est une masse de forces autoritaires lancées par le pouvoir de gauche à l'époque sur Paris. Donc ces journées de juin 48 vont faire de nombreuses victimes. Les forces gouvernementales vont perdre environ 1600 hommes.
Et donc la révolte, elle va être totalement...
Ça va être, la République va réprimer dans le sang la révolution parisienne. Donc le nombre d'insurgés tués pendant les combats est estimé, selon les estimations, c'est dur de faire ça historiquement, c'est entre 3000 et 5000, avec lesquels s'ajouteront environ 1500 fusillés sans jugement. Et on peut aller jusqu'à 25 000 arrestations, 11 000 condamnations de prison, et il y a différents historiens qui s'embrouillent un petit peu là-dessus, mais sur le nombre.
3000 à 5000 personnes oui. Tuées dans...
C'est ça, donc la gauche, le gouvernement a balancé toute l'armée pour reprendre contrôle de tout ça, et tirer sur les ouvriers, quoi.
On se fait une petite, petite respiration musicale et puis on se retrouve pour la suite de notre émission, donc avec l'association pour une constituante.
Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique des mamies lady sans belle mélodie, mec. Auditeurs et spectatrices, applaudissez ce charismatique pratiquant du rap magique. J'marche dans la ville, un Walkman et un pack de pipe. Pour pas être en panne dans la cabane en 4. Kidnapping, un 6 dans la banane au chaos. Tu croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer sapé en arbitre. Je délivre un titre pour suicidaire averti. Car
carabine à air déprimé, cherche tant pis. Passe la green, pisse, assez pour 10 cendriers vides. Mais songe en profondeur, sans escale ni scaphandrier. Rie dans ma ville, il fait tout le temps, à cause des pots d'échappement. La musique est ma porte d'échappement, chaque note m'apporte un rythme cardiaque. Suffit que le beat reparte pour que mon mic batte. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, ça fait un, encore moins deux pour le troisième couple. J'suis jamais parti, mais toujours de retour. Lumière à l'horizon, on traîne en bas des tours. J'étais hier, vite d'été hier, d'été à la menthe. On pense à nos potes, pas morts de vieillesse. Mes sujets sont plus graves qu'une basse. La musique les élève, mes lèvres célèbrent celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie. La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu. Pas venu étaler nos souffrances, j'ai pas que ça à faire, frère. Mes thèmes viennent de la souffrance même. Je sais qu'avant de tirer, tu respires un grand coup. Connais-tu lorsqu'on braque cette douleur qui prend le coup? De partir, je m'en fous, je crains que la manière. Ce monde n'est pas le mien, même si je m'en sors bien. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec.
Attention, alors on se retrouve sur Aligre FM 93.1, on est dans Voix contre Oreille et nous sommes avec l'association pour une constituante avec Antonin et Jean qui nous font un petit historique, retour historique sur les trahisons de la gauche. Alors on était en 1948 ou finalement 1848 pardon, où finalement un gouvernement dit de gauche à réprimer dans le sang tout un mouvement populaire, tout le mouvement populaire de 48.
Exactement, ouais.
Alors,
il y a eu tout un ensemble au préalable de manifestations parisiennes, donc de mars à mai, et puis en juin, comme le disait Antonin, il y a eu ces grands massacres de la gauche sur justement des mouvements ouvriers de gauche. Alors, c'était l'avènement de la Deuxième République, et il me semble, alors, que le chef du gouvernement était Lamartine. Voilà.
Ouais. Alors donc ça c'est pour vous c'est vraiment un tournant les trahisons finalement un point de départ des trahisons d'un gouvernement de gauche qui finalement se démarque des classes populaires quoi.
Tout à fait. Et justement de ce fait, j'aimerais parler en fait d'un personnage, un révolutionnaire qui n'a cessé justement de participer à toutes ces révolutions courantes du 19e siècle. Qui s'appelle Louis-Auguste Blanqui. Certains Parisiens connaissent, alors je ne sais pas si c'est une rue ou un boulevard, je ne sais plus.
C'est un boulevard, oui, boulevard Auguste Blanqui.
Boulevard, Blanqui, oui. Voilà, et j'aimerais faire un aparté sur ce personnage qui est absolument formidable et qui m'a souvent, c'est une source d'inspiration en fait. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Donc je vais vous faire une biographie.
Allons-y.
Je vais vous faire une biographie du personnage donc, qui s'appelle Louis-Auguste, qui est né sous le nom de Louis-Auguste Blanqui. Alors, Louis-Auguste Blanqui, dit Auguste Blanqui, est surnommé l'enfermé, puisqu'il a passé une très large partie de sa vie en prison. Donc, est né le 8 février 1805 à Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes. Alors, on n'est pas loin de Nice. Son père, Jean-Dominique Blanqui, était un conventionnel ayant connu la prison en 1793. Alors, un conventionnel, j'aimerais juste faire un aparté dessus, puisque Antonin on a un peu parlé, puisque Jean-Dominique Blanqui était de tendance girondine, puisqu'il s'opposait en fait effectivement à la monarchie, mais Voilà, et c'était un révolutionnaire contre en fait l'establishment monarchique. Donc alors du coup, fin de la partie sur ce qu'est un conventionnel. Donc alors lors des élections de septembre 1792, la convention nationale est créée et l'Assemblée législative vote un décret demandant l'élection au suffrage universel d'une convention nationale qui décidera des nouvelles institutions de la France. Il s'agit justement de la première expérience du suffrage universel de l'histoire de France. Alors les conditions de vote n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui puisque selon l'article 2, il fallait être français, il fallait être un homme. Âgé de 21 ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu et du produit de son travail, donc c'est-à-dire que les chômeurs n'avaient pas le droit de vote, et n'étant pas en état de domesticité, donc c'est-à-dire que les domestiques ne pouvaient pas non plus voter. Voilà, je vais faire une partie là-dessus. Et donc les membres élus de cette convention sont donc appelés les conventionnels, et ces personnes fondent la première république et proclament l'abolition de la royauté. Voilà, donc le père de Louis-Auguste Blanqui était un conventionnel. Donc revenons à Auguste Blanqui. Alors il est élevé à Paris, à l'institution Massin, où enseignait son frère Adolphe, un futur économiste libéral favorable au libre-échange et au désengagement de l'État dans l'économie. Il étudie ensuite le droit et la médecine et se lance très tôt dans la politique. Ce fut un ardent défenseur du républicanisme révolutionnaire sous les règnes successifs donc de Charles X, qui, je rappelle, a été roi de France de 1824 à 1830, de Louis-Philippe Ier, qui était roi de 1830 à 1848, puis de Napoléon III, empereur de 1852 à 1870. Donc on parle quand même de plus de 42 années de règne au courant du XIXe siècle Louis-Auguste Blanqui considérait comme despotique. Mais on va revenir là-dessus, parce qu'il n'a pas non seulement considéré ces règnes-là comme despotiques, puisque justement il a aussi considéré certains gouvernements de gauche républicaine comme trop modérés, et donc de ce fait les a affrontés. Alors, il devient athée dès sa jeunesse. Alors, il adhère dès 1824 à la charbonnerie. Alors, je me suis un peu intéressé à ce que c'est. C'est un mouvement initiatique et secret à forte connotation politique et qui, dans la première moitié du 19e siècle, s'opposait à la restauration monarchique.
Ça vient d'Italie, non ? C'était pas les Carbonari ?
Oui, c'est ça. Le mouvement a surtout été connu en Italie. C'est un peu propagé aussi également au Portugal et en Espagne. Oui. Donc ensuite, il est blessé en 1827 par trois fois lors de manifestations d'étudiants au Quartier Latin, dont une blessure au cou. En 1829, il entre au journal Le Globe comme sténographe. Alors sténographe, c'est écrire d'une manière aussi rapide que la parole. Voilà. Mmh. Scribe. Mmh. Mais sa vie est désormais partagée entre les conspirations et les emprisonnements. Il combat le régime de Charles X en juillet 1830, les armes à la main, alors qu'il était encore étudiant en droit. Il participe au comité des écoles qui, en janvier 1831, manifeste contre le régime de juillet. Il est arrêté une première fois. Il est à nouveau condamné en 1832 comme membre de la Société des Amis du Peuple. Et c'est là qu'il rencontre d'autres opposants au régime, orléanistes comme Buonarroti, Raspail ou encore Barbès. Cette association fut dissoute, car ses membres ont vigoureusement pris position vis-à-vis de nombreux événements politiques, comme les émeutes de décembre 1830. Récidiviste et prêchant toujours la violence, il est de nouveau arrêté et inculpé de complot contre la sûreté de l'État. Fin 1831 a lieu un procès durant lequel lui et 14 camarades sont accusés de délit de presse. Pendant son procès, il réclame le suffrage universel et accuse les bourgeois d'être des privilégiés, se déclarant, lui, prolétaire. Il est ensuite condamné à un an de prison. Ensuite, sa participation à l'insurrection de 1839 lui vaut d'être arrêté, puis condamné à mort en 1840, mais sa peine étant commuée en prison perpétuelle, c'est au Mont-Saint-Michel qu'il se retrouve enfermé.
Aha.
Je ne savais pas qu'il y avait une prison au Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est... En 1844, son état de santé lui vaut d'être transféré à la prison-hôpital de Tours, où il reste jusqu'en avril 1847. À la suite d'un appel à la libération de Blanqui par le journal La Réforme, alors, j'ai tenu à citer ce journal parce que justement, il y avait beaucoup de républicains qui s'étaient associés à ce journal, tels que Louis Blanc, Arago, Godefroy Cavaignac, on a la rue un peu plus loin dans le 11e, et Pierre Leroux. Ensuite, c'est Louis-Philippe Ier qui gracie Blanqui. Blanqui refuse sa libération. Il demande à ce qu'on dise qu'il revendique toute solidarité avec ses complices. Une fois libéré, il s'associe à toutes les manifestations parisiennes, justement, on en parlait, de mars à mai, pendant la révolution de 1848, qui donne naissance à la Deuxième République. Le recours à la violence de la Société républicaine centrale, qu'il a fondée, pour exiger une modification du gouvernement, du gouvernement de la Deuxième République. Il se met donc en conflit avec les républicains modérés de la Deuxième République et s'oppose à Lamartine. Il est ensuite condamné à 10 ans de prison, trahison de la gauche, et envoyé à Doullens, près d'Arras, dans la Somme, jusqu'en 1859.
C'est intéressant parce qu'il y avait Marx et Engels ont fait une analyse de tout ce qui s'est passé de la Révolution de 48 et ont considéré que c'était l'acte de naissance de l'indépendance du mouvement ouvrier. Parce que les acteurs de la révolution de février 48 sont divisés en deux camps, de toute façon. Il y a le premier qui était celui plutôt de la bourgeoisie, qui était très satisfait de la mise en place de la République telle qu'elle était, et qui avait désormais face à elle les ouvriers, qui n'ont pas oublié les mots d'ordre de République sociale de l'époque. Et donc c'est logiquement que c'est en juin, c'est logiquement qu'ils vont s'affronter en juin, comme on a pu le voir. Mais un truc qui était intéressant, c'est la conséquence, on peut voir la conséquence historique très rapide de l'insurrection de juin 48. La constitution qui était en cours de discussion va être amendée tout de suite. On va en retirer toute référence sociale utilisable. Donc une fois qu'on a massacré le mouvement, on va en profiter pour changer la constitution. Et la constitution. Donc la République sociale disparaît, la peur des rouges augmente, et ça conduit à des votes de plus en plus conservateurs au sein de la constituante elle-même, puis ensuite au moment de la désignation des corps constitués plus tard. Donc les élections présidentielles et donc législatives amènent au pouvoir le neveu du premier empereur, et avec une majorité monarchiste, un étrange mélange pour une république. Paris a été saigné par les combats, la répression. Paris perd la prééminence de la vie politique. Une grande partie du peuple parisien se détourne de cette république qui a fait tirer sur le peuple lui-même, le peuple de Paris. Et c'est à ce moment-là que Louis-Napoléon de Bonaparte a su en tirer profit et il a décidé de mettre fin à cette seconde expérience républicaine en France après tous ces événements. Je vais juste faire une petite parenthèse pour les conséquences politiques assez dramatiques qu'il y a eu après ça.
Voilà, alors on revient à Blanqui. Alors c'est une sacrée une sacrée existence. Il a passé la plus grande majeure partie de sa vie enfermé du coup.
C'est pas fini. Alors c'est bien que tu aies parlé de Marx parce que justement Karl Marx a cité Blanqui en disant que s'il avait pris la tête de la révolution pendant la Commune, peut-être que la Commune aurait été une réussite.
Alors là, on était dans 48.
Disons qu'il passait 10 ans en prison.
Il a passé 10 ans en prison, justement, ce qui nous emmène jusqu'en 1859, où il a été libéré. Et alors,
il a accepté finalement d'être libéré en 59.
Non, en fait, il était condamné à 10 ans de prison. Et en fait, du coup, entre 49 et donc du coup, 10 ans s'écoulent jusqu'en 1859. Ouais. Et c'est là qu'il retrouve son fils Estève, qui tente de le convaincre de venir habiter avec lui dans sa propriété de campagne et de ce fait d'arrêter la politique, d'abandonner son combat politique. Louis-Auguste Blanqui refuse catégoriquement et perd tout contact avec son fils.
Ah oui, ça c'est la radicalité.
Ah, il était efficace, Louis-Auguste.
Il continue, il est ensuite à nouveau arrêté, puis évadé. Il continue sa propagande depuis son exil jusqu'à l'amnistie générale. Et là, nous sommes en 1869. Un parti blanquiste s'organise autour de lui et lui permet de poursuivre son action jusqu'à la chute de Napoléon III. Et un certain Georges Clemenceau figure parmi les blanquistes. Jeune médecin prometteur. Arrêté et emprisonné juste avant les événements de la Commune de Paris, Louis-Auguste Blanqui est considéré par une majorité de communards comme leur chef de file, même s'il ne peut pas participer aux événements de la Commune. À ce moment-là, il était à Bordeaux. Adolphe Thiers, chef du gouvernement, est conscient de l'influence de Blanqui sur le mouvement social parisien, le fait arrêter le 17 mars 1871. Et donc là, je reviens à Karl Marx. Karl Marx était convaincu que si Blanqui était le chef... Blanqui était le chef qui a fait défaut à la Commune. Blanqui est ensuite condamné à la déportation, mais incarcéré pour raison de santé, et puis libéré en 1879. Louis-Auguste Blanqui crée alors son journal, nommé Ni Dieu, ni Maître, et parcourt la France pour diffuser ses idées. Il meurt d'une crise d'apoplexie le 1er janvier 1881, et ses obsèques seront suivies par 100 000 personnes. Je terminerai par une citation célèbre de Blanqui. Oui, messieurs, c'est la guerre entre les riches et les pauvres. Les riches l'ont voulu ainsi. Ils sont en effet les agresseurs. Seulement, ils considèrent comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent une résistance. Ils diraient volontiers, en parlant du peuple, Cet animal est si féroce qu'il se défend quand il est attaqué. Alors en effet, Blanqui a passé 35 ans de sa vie en prison. Il définit l'action révolutionnaire comme la préparation d'un coup d'État en vue d'instaurer une république socialiste. Son influence est aujourd'hui importante sur le syndicalisme révolutionnaire. Dans les grandes lignes idéologiques, Blanqui est favorable à la redistribution des capitaux et à la collectivisation des moyens de production, mais il se distingue de Marx car il ne croit pas au rôle prépondérant de la classe ouvrière ni au mouvement de masse. Il pense qu'au contraire que la révolution doit être le fait d'un petit nombre de personnes établissant par la force une dictature temporaire. Il croyait à l'avènement de la République parce qu'elle serait prompte à voir l'avènement du socialisme, mais il ne montrait pas de sympathie vis-à-vis de l'internationalisme. Une réticence qui était sans doute due à son patriotisme. Donc c'est vraiment un personnage qui a su montrer une vraie force de conviction absolument extraordinaire. Il a toujours été dans le combat, il ne s'est jamais renié ni renoncé à aucune de ses convictions. Et peut-être qu'aujourd'hui la gauche devrait s'inspirer en fait de son combat.
Voilà. Et alors donc on apprend qu'il y a des devises comme ça, ni Dieu ni maître, on ne sait pas d'où elles viennent, tout le monde ne sait pas forcément, et donc c'était le journal fondé par
Auguste Blanqui, effectivement.
Auguste Blanqui, et c'est devenu un peu un slogan, un mot d'ordre pour pas mal de...
Des anarchistes, notamment.
Voilà.
Ah, c'est vrai que c'est une figure assez belle. Un truc qui est un peu triste, c'est que en fait malheureusement il n'a pas été si suivi que ça dans le mouvement ouvrier en termes d'idéologie, parce que si je reviens à l'analyse que fait Julliard dans la correspondance dont je parlais avant, Julliard qui est donc pour le contexte qui est ancien rédacteur en chef de Marianne, qui doit être éditeur en chef maintenant, bon, qui est quelqu'un qui bosse pas mal à Marianne.
Un journaliste
Marianne. Oui, avec une bon background historique quand même. Ben, Julliard, lui, considère que dans le fond, ce qui compte avant tout, c'est l'amélioration des conditions de vie, comme lutte de gauche, en gros. Et ben, c'est vrai que l'histoire du 19e siècle lui donne un peu raison, parce qu'on a un attachement assez indéfectible des ouvriers à la République. Genre, même après les répressions, après les massacres de 48 dont on a parlé, et ben, tout ça, c'est pas venu encore à bout de ce que Julliard identifie comme un calcul rationnel. En gros, profondément bourgeoise, violente envers eux, envers les ouvriers, la République leur a toujours quand même garanti des droits et des libertés politiques, un droit de vote notamment. Et donc, un peu, un espèce de mythe, c'est davantage d'espoir en l'avenir et d'éventuelles améliorations des conditions de vie. Et il fait une analyse intéressante, c'est que ce contexte républicain qui a été autoritaire et même meurtrier leur a quand même donné une espèce de mythe ou d'espoir à long terme. Et il compare ça au prolétariat allemand, qui à la même époque n'évoluait non pas dans une république mais dans un empire. Et selon lui, évoluer dans un empire où l'intégration politique du mouvement ouvrier était quasi nulle, ils n'avaient même pas l'opportunité de s'exprimer pour le coup, en dépit de toutes les concessions sociales qui ont été accordées par Bismarck, dans un calcul politique assez intelligent pour pouvoir les calmer et les garder bien au chaud. Ben, selon lui, même si Bismarck a donné des avantages, des concessions sociales bien plus avantageuses que certaines des avancées obtenues par la force en France à l'époque, selon lui, c'est ce qui a fait qu'une partie peut-être du prolétariat allemand n'a pas su résister au chant de sirène du fascisme et du nazisme. Alors que, justement, la République française connaîtra, grâce au Front populaire dans les années 30 du XXe siècle, grâce à l'Union des Gauches, un sursaut qui a été insuffisant, mais qui démontre quand même, selon Julliard, l'attachement quasi organique des masses populaires et des masses ouvrières à la République. Et cette différence de mythe qui a été fournie aux classes, même s'il y avait une autorité dans tous les cas, a permis d'avoir cette distinction entre les possibilités d'un fascisme au XXe siècle.
Eh bien, ça va peut-être nous amener à justement réfléchir à la période actuelle. On fait une petite pause et puis on fera le lien avec l'époque contemporaine.
Nos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Nos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Tous nos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Tous vos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Tous vos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Tous vos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Vos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel. Tous vos correspondants sont actuellement occupés. Veuillez renouveler votre appel.
C'est fait exprès de faire attendre les gens, l'hiver dans le froid dehors, c'est fait exprès de faire attendre les gens dedans, l'été sans clim, c'est fait exprès de faire la queue pendant des heures, c'est fait exprès de se faire humilier, c'est fait exprès de se faire humilier, c'est fait exprès que tu perdes ta journée, c'est fait exprès de te faire humilier, c'est fait exprès que tout soit compliqué, c'est fait exprès que tout soit impossible, c'est fait exprès que le formulaire soit incompréhensible, c'est fait exprès que tout soit compliqué.
Bruine noire, sécurité sociale sur Aligre FM 93.1, programmation musicale, Adrien. Et donc on est ensemble avec l'association Pour une constituante, avec Antonin et Jean. Alors on a retracé un peu des éléments historiques sur l'histoire de la gauche, les trahisons de la gauche au gouvernement qui s'oppose aux révolutions, aux mouvements d'insurrection. Et donc la figure d'Auguste Blanqui. Alors comment on peut faire le lien, Antonin, avec l'époque actuelle et les trahisons plus récentes?
Oui, donc la trahison la plus récente, la plus remarquable, je pense, c'est... Donc si on saute un peu dans l'histoire, la Seconde Guerre, l'Union, le Conseil National de la Résistance en France... je vais revenir un peu dans les... Ça serait bien de nous amener aux années 70. En gros, il y a eu, dans les années 70, une trahison américaine. C'est-à-dire que aux États-Unis, on a, sous les années... Donc ça a commencé tout ça avec les années Reagan, Thatcher en Angleterre. Dans les années 70, jusqu'aux années 70, le Parti démocrate américain était très lié à tous les syndicats, aux syndicats les plus majeurs du pays, que ce soit les syndicats de confédération de type transport, routier, syndicats industrie, métallurgie, etc. Donc il y avait encore des liens très forts entre le Parti démocrate et les ouvriers. Mais la vague libérale qui a été lancée par l'école de Chicago dans les années 70 a corrompu de plus en plus les élites politiques démocrates qui ont commencé à se détourner de ces ouvriers. Et donc ça a été le début de la grande trahison qui est venue, enfin qui est arrivée en France à peu près au même moment. Donc c'est vrai qu'on est tombé c'est un peu une des premières instances de grotesque politique de gauche où on se rend compte que les démocrates ont pu compenser ce discours social par un discours sur les questions de minorité qui était extrêmement nécessaire à l'époque. faut pas oublier la condition des Noirs à l'époque, mais ils sont complètement focalisés là-dessus, dans les conditions bien sûr des droits des femmes, droits des Noirs, etc. Donc pour garder leur étiquette de gauche, mais tout en méprisant totalement les questions sociales et en trahissant de manière assez franche les intérêts des syndicats. Donc je vous conseille là-dessus un bouquin que je cite souvent, c'est Le Grand Bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde, de Serge Halimi, qui fait une description c'est un gros pavé de 800 pages, mais dedans, et par chapitre, il y a des régions du monde historiques où il raconte un peu les trahisons de la gauche, comme ça. Donc, les trahisons des démocrates sur les syndicats, il oppose, c'est très bien les combats de minorité à l'époque, mais ça a été surtout, malheureusement, pas que des bonnes intentions, mais aussi une manière de cacher le manque d'attachement aux syndicats, enfin, le détachement qu'il y avait envers les syndicats. Alors, pour faire le lien en France, alors ça sera à modérer aujourd'hui parce qu'on est une situation assez amusante au PS avec des mouvements comme Hamon qui débarquent, enfin, et on est du Hamon et du Valls dans le même parti, donc ça sera à modérer. Mais c'est vrai qu'en France, on pourrait dire quand même qu'en termes de libéralisme, ça va pas faire plaisir à certaines personnes. Mais c'est vrai que le PS ou les Républicains, des fois, on se peut se poser des questions sur leur tendance libérale ou anti-libérale. Bon, le Républicain, on s'en pose pas trop. Mais c'est vrai que le Parti Socialiste a souvent tenté de camoufler sa collaboration assez active avec les grands groupes, avec les intérêts financiers, en focalisant l'attention des citoyens sur des réformes sociétales, comme aux États-Unis.
Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Hollande.
Ah oui, Hollande.
Le mariage pour tous, ça a été un peu la seule avancée du quinquennat.
C'est vrai que ça a été un truc, on a parlé pendant un an. Bon, après, c'est aussi, c'est pas faute à la droite qui était en train de manifester tous les jours aussi, et qui nous a forcé à en parler.
Oui, donc il y a eu vraiment une lutte pour l'imposer.
En tout cas, c'était une lutte qui a permis de bien éviter les questions sociales pendant pas mal de mois, donc c'était assez pratique pour ça. Enfin, donc en gros, il y a pas mal d'écrans de fumée. Et non, un truc triste aussi, ce serait une preuve que Michel apporte comme le succès du processus un peu corrupteur de la gauche, c'est que même dans un parti comme celui de Mélenchon, qui est censé être issu du Parti communiste français, ou une force à gauche de la gauche, entre guillemets, chez Jean-Luc Mélenchon, on aura quelques déclarations naïves en faveur des droits de l'homme, etc. Il n'y a pas vraiment de référence active et construite à un éventuel changement du mode de production. Et en gros, le changement du mode de production, chez le PS, on en parle à peine, hein, on en parle même pas. Donc le problème étant que même chez Mélenchon, on n'a plus trop ce discours-là. Enfin, Mélenchon qui parle l'incarnation de l'extrême gauche, mais même chez un mouvement qui est censé être un peu important en amplitude et d'extrême gauche, on parle plus trop de ces questions-là. Et on remplace par des choses un petit peu, des exigences très légères sur la répartition des richesses, mais aucune pensée de fond sur la répartition du mode de production. Donc moi, je peux faire un petit bilan rapide. La corruption de la gauche, aujourd'hui, je pense qu'elle passe par deux choses. Un, le spectre de l'extrême droite qu'on agite en permanence. Et deux, un écran de fumée sur certaines questions minoritaires. Donc par exemple, Michel est intéressant là-dessus, parce qu'en gros, deux critiques qu'on peut donner au libéralisme, etc., c'est de dire, un, bon, le système libéral est quand même pas acheté, il y a des choses très bonnes dedans, et on peut quand même s'attacher au régime qui a permis l'acquisition de ces nouvelles choses. Et le deuxième argument étant, bon, l'URSS ça marche pas, on a déjà essayé, le socialisme ça marche pas du tout. La première réponse que moi je donnerais pour reposer un peu la question de qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle a été corrompue par ce truc libéral et qu'est-ce que c'est vraiment la gauche, Michel va dire que quand on donne l'argument de le libéralisme c'est pas si mal, Michel indique que la seule chose assez progressiste dans le libéralisme c'est la démocratie. Et que le libéralisme en gros se donne la paternité du concept démocratique, alors que ça fait des milliers d'années dans l'absolu que ça existe depuis la Grèce antique. Il n'y a aucune paternité du concept de démocratie par le libéralisme. Donc Michel va dire, ça prouve bien, c'est l'aveu le plus éloquent, en gros, de l'incapacité de la doctrine libérale à fournir un projet émancipateur sur le plan politique et humain. Donc en gros, selon lui, le principe premier, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, le principe premier qui peut conditionner la réussite d'un projet socialiste, c'est la confiance dans le bon sens et la décence du peuple. Alors bien sûr, ça implique un contexte, une certaine éducation, des écoles populaires et tout, mais c'est la première chose. Alors, c'est ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui, et le populisme, justement, c'est ce qui va être encore une de ces questions de corruption de la gauche. Le populisme, c'est ce spectre de l'extrême droite. En gros, on ne fait pas confiance au peuple, il faut faire des... parce qu'il va voter mal, en gros. Donc c'est toute cette doctrine de voter pour, sinon il y aura... voter pour X, sinon il y aura Y qui est méchant, c'est quelque chose d'assez infantilisant. On protège comme un enfant le peuple de ses mauvais penchants lui-même, alors que Michel a dit que non, il faudrait plutôt croire qu'on a plus de chances de rencontrer des comportements moraux chez les gens qui sont exploités que chez les exploitants. Donc c'est qualifié avec mépris de populisme, alors que c'est quelque chose que vous allez retrouver chez Machiavel ou même même dans la doctrine chrétienne, dans l'absolu. Moi je vais faire un dernier petit lien avec justement la tendance un peu autoritaire. Tout ça c'est du pain béni pour quelqu'un comme Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen était assez était assez clivant dans ses positions raciales notamment, donc c'est vrai que c'était pas très dur de s'en débarrasser. Là, vous prenez Le Pen en 2-3 étapes, elle se fait une nouvelle santé. Un, elle dédiabolise, c'est qu'on met un peu sous le tapis, on essaie de calmer tout ce qui est vous savez, genre des phrases génétiques sur la qualité de différents humains. Bon, on met tout ça sous le tapis, on dédiabolise entre guillemets, on calme un peu les militants qui ont les mauvais réflexes de ce côté-là, on essaie de pas trop les mettre à la télé. On a un discours antilibéral relativement cohérent, à peu près, qui peut être passablement cohérent, en tout cas dans certaines ailes du parti, des critiques de l'Europe néolibérale, etc., qui font mouche. Et surtout, en face de ça, on a une faiblesse de tout ce qui est extrême gauche. Donc il n'y a que l'extrême gauche qui pourrait essayer de lutter sur le plan idéologique avec Marine Le Pen, donc, vu que c'est les seuls qui vont parler qui vont parler de manière antilibérale et critiquer l'Europe. Vu que l'Europe a été un produit de tout ce qui était gauche de pouvoir et droite de pouvoir depuis 50 ans, eux vont pas en parler. Donc Marine Le Pen, elle fait ça, ou un parti comme ça va faire ça, un parti démagogique va pouvoir faire ça très facilement, et compter sur la faiblesse des extrêmes gauches. Les extrêmes gauches, elles sont divisées, ilotées en différents mouvements incompréhensibles. Ils sont assez balkanisés, on pourrait dire, en plusieurs différentes factions. En gros, les gens n'ont pas confiance en eux spécialement, et donc ça donne la voie assez ouverte pour quelqu'un d'un peu intelligent. Et je pense que ça pourrait faire une bonne transition avec justement ce qui se passe au FN aujourd'hui.
Alors, sur le FN, on va peut-être pour terminer écouter.
Oui, c'était une idée de conclure sur du Fast and Curious.
Voilà, donc Fast and Curious, c'est la chaîne YouTube. Qui est partenaire de Voix contre Oreille. Et donc, la dernière chronique, c'est sur.
Alors, justement, sur l'extrême droite, oui, sur le FN.
Les affaires.
Oui, les affaires de ce parti qui, justement, a la vie bien facile pour se présenter et réattirer des voix de gauche, mais est quand même un parti avec une certaine structure et une certaine corruption. Donc, c'est plutôt intéressant d'en parler un petit peu.
Ok, on l'écoute tout de suite.
Salut à tous, deuxième partie de cet épisode consacré aux affaires du FN. Aujourd'hui, on parle oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille, hein ? Et ouais, c'est une bonne question ça, à laquelle les Le Pen ont trouvé une réponse simple. Ils cachent l'argent. C'est un peu comme Trump, ils sont riches, mais ils aiment pas trop les déclarations d'impôts. Ce qui manque de patriotisme à mon goût, faut l'avouer. Surtout quand on sait que leurs électeurs sont pour la moitié des ouvriers qui gagneront jamais en une vie ce que eux touchent en une année. Ça mérite un petit décryptage. Dans la famille des fraudeurs, on commence par le père, Jean-Marie, grand habitué des contrôles fiscaux depuis qu'il a hérité en 76 d'un ami qui travaillait dans le ciment et qui est mort à 46 ans sans descendance. Il lui a légué l'équivalent de 5-6 millions d'euros, dont une bonne partie aurait été placée en Suisse, blanchiment de fraude fiscale.
Jean, au secours !
On se détend, Jean-Marie, aucune condamnation en vue pour l'instant, les montages financiers ont dû être bien faits. Mais par contre, faudrait songer à mieux remplir les déclarations de patrimoine. Parce que là, en revanche, la justice, elle n'est pas contente. Et ça concerne aussi la fille, Marine Le Pen, ce qui est plus intéressant pour nous d'ailleurs. En gros, depuis 2013 et l'affaire Cahuzac, les parlementaires sont obligés de déclarer tout ce qu'ils possèdent. Vous noterez qu'avant 2013, c'était open bar, hein. Il y a dû y avoir de belles arnaques. Bref, apparemment, les Le Pen auraient sous-estimé de 60% leur patrimoine immobilier. Alors, je vous explique. Je serais content de savoir que Marine Le Pen est copropriétaire, à divers pourcentages, de 4 belles maisons. À la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, avec une petite piscine qui fait plaisir d'ailleurs, mais surtout à Rueil-Malmaison et à Saint-Cloud. Et c'est sur ces deux dernières qu'il y a problème. Problème d'estimation. Le château à Saint-Cloud, c'est 430 mètres carrés, 11 pièces sur 3 étages, sans compter les 400 mètres carrés de dépendance et le demi-hectare de jardin. À votre avis, ça coûte combien tout ça ?
4 euros et quelques.
Les Le Pen évaluent ça à 1,8 million. C'est pas tout à fait ce que pense le fisc, qui lui tape plutôt sur 3,5 millions. Le double, quoi. Et encore, ça, c'est rien à côté du chic appartement de Rueil-Malmaison. Un petit 200 mètres carrés sur deux étages, avec un jardin de 1200 mètres carrés. Et alors là, c'est carrément du foutage de gueule, puisque les Le Pen évaluent ça à 350 000 euros. C'est comme les pains au chocolat à 10 centimes. On est très loin du compte. C'est 10 fois moins que l'estimation du fisc. 10 fois moins. Autrement dit, Marine Le Pen cache une bonne partie de sa fortune et oublie de payer les impôts qui vont avec. Et ça peut faire mal, hein. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet financier en 2016, et si tout ça était prouvé, elle risquerait 3 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Vous n'avez pas honte ?
Pardon ?
Vous n'avez pas honte ?
Honte de quoi ?
Vous n'avez pas de regrets ?
Ah bah oui, honte de quoi ? Face à toutes ces affaires, la défense de Le Pen, c'est toujours la même, hein. Elle crée au complot, elle dit qu'on cherche à lui nuire. C'est quand même assez léger comme justification. Mais bon, visiblement, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça suffit à son électorat, qui n'a pas l'air de lui en vouloir. Ce qui est contradictoire, hein. Elle passe son temps à critiquer le système pourri, corrompu, et dès qu'on la coince à s'adonner aux mêmes pratiques que les autres, bah, ses électeurs s'en foutent.
Ils n'ont aucune prise, d'aucune sorte, sur moi, et c'est pour cela que je reste si dangereuse à leurs yeux. Une candidate incorruptible dans une classe politique vendue et corrompue.
Ah, c'est pas facile, franchement. Je pense que le fait que le FN ait jamais été au pouvoir, bon, bah, ça doit leur donner une sorte de virginité. Ils représentent de fait l'antisystème, on les met pas dans le même sac que les autres. Du coup, leurs électeurs prêtent pas attention aux affaires tellement ils veulent balayer les partis traditionnels.
Parce que dans la ville que je vis, qui a près de 25 000 habitants, je n'ai pas de sécurité sociale, je n'ai pas de clinique, je n'ai pas de gendarmerie, je n'ai pas d'hôpital, mais notre maire socialiste est heureux parce qu'il est en train de dresser une mosquée. Ce n'est pas la France que je veux. Alors, messieurs, je suis obligé de voter pour Marine Le Pen qui, elle, représente quelque chose de nouveau.
Bon, encore une fois, ça fait penser à qui ? À Trump. Peu importe ses phrases, ses erreurs, bah lui, il a incarné le rejet de l'establishment, et finalement, c'est tout ce qu'a compté. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors, même si les perspectives sont pas super réjouissantes, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la. Si vous avez des amis FN, bon, c'est triste, mais n'hésitez pas à leur envoyer tous les jours la vidéo. Peut-être que ça finira par rentrer. Allez, ciao.
Voilà, donc c'était la chronique de Fast and Curious. C'est une chaîne YouTube qui publie des vidéos toutes les deux semaines, des vidéos et qui font le point sur des sujets de société. Et donc on retrouve Ismaël Merighetti régulièrement à ce micro. Bonjour Ismaël.
Et bonjour Michel, bonjour à tous.
Et ben merci d'être avec nous une fois de plus. Alors cette chronique, cette plongée dans l'univers du FN, vous avez essayé d'expliquer à la fin pourquoi finalement ces affaires, ça a pas l'air de tellement l'handicaper sur son parcours électoral, quoi.
Effectivement, j'ai vu une statistique hier qui m'a beaucoup étonné, c'est dans un sondage encore un, qui faisait état du fait que 28% des Français ne considéraient pas Marine Le Pen comme honnête ou digne de confiance. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce chiffre. La première chose, c'est que ce chiffre n'a pas évolué depuis l'année dernière. C'est-à-dire que les affaires récentes dont on parle depuis quelques semaines maintenant n'ont aucun impact finalement sur la confiance qu'on lui accorde. Et la deuxième chose, c'est que la confiance qu'on lui accorde est assez faible, finalement. 28% des Français pensent qu'elle est digne de confiance. Et pour autant, ça n'affecte pas ces sondages et de popularité et d'intention de vote. Ce qui prouve bien que finalement, c'est pas ce qu'on recherche chez elle. Et c'est plutôt son caractère anti-système et renversement de la table qui prime sur toute autre chose. Et les électeurs FN, moi je l'ai vu sur les commentaires de mes vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, les électeurs FN n'en ont strictement rien à faire des potentiels scandales. Et ils arrivent même à retourner ça à leur avantage, c'est-à-dire, par exemple, pour l'affaire des parlementaires européens, des assistants parlementaires européens, c'est des commentaires du style « Mais elle a bien raison de voler un système auquel elle ne reconnaît pas. » Et voilà, donc... Finalement, aucune prise sur elle en ce qui concerne les affaires, à la différence de François Fillon.
Alors, est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet entre les trahisons des gauches, les trahisons de Hollande et les trahisons des gauches en général vis-à-vis du peuple et la montée du FN ? Alors là, question.
Ah bah moi, moi c'était mon point principal, oui. Enfin, sur le Pen, elle a pas grand-chose à faire. Finalement, aujourd'hui, on arrive à une ère où après 30 ans d'un peu n'importe quoi sur la question de la gauche, et 30 ans à laisser tomber les gens, 30-40 ans à laisser tomber les classes populaires, avec un petit peu de cervelle, c'est pas très dur. On peut arriver à une ère de démagogie maintenant. C'est pas très dur de trouver les bons mots, de savoir quoi dire. Une fois que le FN a enfin compris qu'il fallait arrêter de raconter n'importe quoi sur les chambres à gaz et qu'il fallait peut-être avoir des positions moins libérales et un peu plus anti-Europe, c'était tout gagné, il n'y avait rien à faire. Forcément, c'est pas non plus très impressionnant ce qu'elle fait. Enfin, c'est très simple, il suffit d'avoir quelqu'un qui a du bon sens. Les trois quarts de ce que fait le FN qui est populaire, c'est prendre des choses dont... C'est des vraies questions, des vrais points, on les évoquer, en parler quand tout le monde a peur d'en parler, et c'est bon. Il y a plein de choses... Il y a plein de choses qui sont passées dans l'histoire de France comme ça. Enfin, si vous regardez, dès qu'il y a un problème franc, honnête, où on peut regarder qui est problématique et qui est lié à l'immigration, parce qu'il y a des problèmes, s'il y en a un, la gauche va le cacher ou quelque chose. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est de dire, bah, regardez, il y a ça qui se passe, c'est pas normal. De fait, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle arrive à avoir une aura médiatique là-dessus, tout ça parce que la gauche a voulu mettre sous le tapis, parce que, bah, non, attention, faut pas parler de ça. Donc bon, tout ce qu'elle a à faire, c'est être assez franche et parler assez fort sur des choses que les autres cachent. Et ensuite, c'est ça.
Voilà. Et donc, c'est elle, finalement, qui récupère ce discours de critique du système, de critique, oui, de l'Union européenne, de critique de l'oligarchie.
Ouais, c'est absurde, mais bon, en même temps, si elle se présente comme quelqu'un qui parle le langage de la vérité, bah, vu qu'on sait qu'on est dans une classe politique assez mensongère en général, c'est pas très dur de tirer son épingle du jeu assez rapidement, quoi.
Et pourquoi est-ce que, enfin, comment ça se fait par rapport à, alors, au mouvement Mélenchon, que ça soit pas, lui n'en tire pas plus.
Moi, là-dessus, je pense que
profite de ce discours qui, parce que lui aussi, quand même, critique.
Bah, il y a plusieurs choses. Je pense en Mélenchon. Déjà, il fait partie du, c'est un ancien du PS. Les gens ont peut-être moins confiance dans le PC depuis quelques années. Et je pense que la question immigration migratoire est très 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 clivante. Et on voit l'extrême gauche comme des gens qui veulent ouvrir toutes les frontières, accueillir toute la misère du monde, avoir tous les immigrés, les musulmans, etc., etc. Tout ce truc-là, c'est très mal connoté à gauche. Je pense que si on est un peu dubitatif sur l'immigration, un truc du genre, on va se méfier de Mélenchon. Je pense que c'est un des trucs qui va le perdre. S'il fait un discours trop d'ouverture sur les immigrés, les choses, la misère du monde qu'on doit accueillir les Syriens, je pense que ça va malheureusement lui faire perdre des voix. Il me semble que c'est une des questions clivantes, et pourtant, ils vont être similaires peut-être sur certains trucs économiques, mais ce truc-là va le faire paraître pour un espèce d'internationaliste anti-frontières, et ce qui, je pense, est un très mauvais choix en termes de communication.
C'est mal vu, à l'époque, n'est pas...
Mais il faut le faire bien. Il faut le faire bien, mais il faut réaffirmer des choses humanistes sur les gens qui se font massacrer, etc. Mais il faut aussi réaffirmer l'importance des frontières, je pense. Il y a des points... On ne peut pas vivre dans un monde un peu d'illusion, ou dire qu'il n'y en a pas et que ça compte pas. Et je pense que les gens sont sensibles à ça. Donc soit on fait des choses un peu comme lui, et on laisse la porte ouverte donc à Marine Le Pen avec sa version des choses. Soit il faut être un peu plus pragmatique là-dessus.
Avec une petite contradiction peut-être, c'est que Macron a un discours très très pro-immigration, ouverture des frontières, et qu'il séduit aussi
dans les classes populaires
pour ça. Ah, c'est une bonne question.
Je pense qu'il séduit ailleurs, mais...
Jean, un dernier mot de conclusion. Non, on prend le cours.
Non, mais en tout cas, j'ai écouté avec attention toutes les interventions, et je tenais à vous remercier pour votre invitation.
Très bien, ben merci beaucoup d'avoir été à ce micro. Merci Antonin,
oui,
d'avoir préparé donc cette émission qui faisait un peu un résumé des trahisons.
Oui.
Et donc merci Ismaël. On te retrouve donc sur YouTube, Fast and Curious.
Fast Curious TV sur YouTube.
Fast Curious TV, voilà, page Facebook aussi. Petit générique pour une constitution.
Ah oui, quand même.
Ah, alors on prend de court Adrien aussi.
Ah, aussi.
Décidément.
On y tient.
Alors.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr